Y aurait-il un moyen de réconcilier ces deux civilisations? Quand il s'agit d'un conflit d'idéologie et d'idées, c'est très difficile de se retrouver, à moins qu'il y ait une civilisation alternative qui permette justement l'union des valeurs positives des deux côtés. Alors, elle se trouve, elle existe cette civilisation, c'est celle d'Israël.
Guerre de civilisation, c'est Benjamin Netanyahou qui a été l'un des premiers à employer ce terme de guerre de civilisation ou affrontement des civilisations pour décrire le conflit qui a été déclenché par les attaques et les massacres du Hamas le 7 octobre. Pour lui, c'est une lutte contre la barbarie. Emmanuel Macron a répondu en affirmant qu'on ne défend pas une civilisation en semant la barbarie. Alors que signifie vraiment ce terme de guerre de civilisation ou affrontement des civilisations? Quelles en sont les limites? Et est-ce qu'Israël peut-il vraiment revendiquer ce combat? Ce sont les questions que nous allons poser à notre invité aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'avoir avec nous le Rav Uri Cherki. Rav Cherki, merci d'être avec nous.
Shalom.
Alors, on va essayer d'abord de définir un peu ce terme d'affrontement de civilisation, de guerre des civilisations. Où est-ce qu'on le trouve d'abord?
D'abord, ça se trouve chez un penseur américain contemporain, Huntington, qui a parlé effectivement du fait que nous sommes dans un conflit mondial. Or, ce conflit mondial, contrairement à ce qui s'est passé jusqu'à présent, n'est pas essentiellement militaire ou économique ou même une guerre de puissance pour le pouvoir. Il s'agit effectivement d'un affrontement des civilisations et nous sommes en plein dans cet affrontement, dans cette guerre. Et pour Huntington, il y a quelque chose comme 9 civilisations qui s'affrontent pour savoir qui sera la civilisation dominante qui va, disons, imprimer ses valeurs sur la planète. Actuellement, c'est toujours la civilisation occidentale, mais on peut dire que l'essentiel de l'affrontement, c'est entre le monde islamique et le monde occidental, et au milieu, il y a Israël.
Alors, comment ça se traduit, cette guerre de civilisation? Est-ce que c'est vraiment une guerre, comme on connaît, une guerre violente, avec des armes, etc., ou c'est aussi une guerre de culture, d'idées?
C'est essentiellement une guerre de culture qui ne peut pas ne pas avoir des conséquences au niveau militaire. Effectivement, on le voit un peu partout. La Chine qui veut s'attaquer à Taïwan, le monde islamique qui attaque Israël, les États-Unis qui soutiennent l'Ukraine. Donc il y a quand même un aspect militaire, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est le fait que nous sommes dans un affrontement des valeurs. Intéressant par exemple de voir ce qu'a pu écrire en son temps Oriana Palacci, la journaliste italo-américaine, qui, dans son livre, dit que si l'islam l'emporte sur l'Occident, alors nous ne pourrons plus nous promener en mini-jupe ni boire de whisky. Mmh. Ce qui, en fait, résume d'une certaine manière l'aspect, disons, peut-être le plus choquant du libéralisme. Mmh. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, il y a une crainte de perdre la liberté. Et par rapport à cela, l'islam va répondre, oui, mais nous avons des valeurs morales. Et ces valeurs morales sont battues en brèche par l'Occident. Alors, y aurait-il un moyen, disons, de réconcilier ces deux civilisations? Quand il s'agit d'un conflit d'idéologie et d'idées, c'est très difficile de se retrouver.
Oui, c'est très difficile de faire un arbitrage dans ce genre de choses.
À moins qu'il y ait une civilisation alternative qui permette justement l'union des valeurs positives des deux côtés. Alors, elle se trouve, elle existe, cette civilisation, c'est celle d'Israël.
Alors, est-ce qu'on retrouve justement, par rapport à ça, est-ce qu'on trouve dans les sources de nos rabbins, dans les sources du Talmud, est-ce qu'on parle justement de ce rôle que Israël a joué?
Mais vous connaissez très bien ce terme forgé par Léon Ashkenazi Manitou, qui parlait de l'unité des valeurs. Or, effectivement, le drame des civilisations, c'est que on diagnostique une valeur parmi les valeurs comme étant la valeur. Alors, par exemple, en Occident,
donnons un exemple.
L'héritage du christianisme a enseigné que c'est la compassion, c'est l'amour qui finalement est la valeur morale par excellence, et la justice ne serait qu'un moindre mal. Mmh. Par contre, dans le monde islamique, on dira que c'est la rigueur qui s'impose comme valeur essentielle, la midat ad-din, comme on dit en hébreu. En arabe, d'ailleurs, le mot din veut dire également la religion. Et donc, il y a une rigueur très forte envers, justement, tout ce qui est répréhensible au niveau le vol, l'impudeur, etc. Et C'est Israël qui a été capable de forger, à travers sa Torah, entre autres, de forger justement cette idée qu'il y aurait une unité des valeurs, que la morale se traduit justement dans l'ensemble, dans l'inclusion de toutes les valeurs à la fois. Alors c'est une synthèse difficile à réaliser, mais elle est réalisable. Elle se réalise sous nos yeux, à travers la société qui est en train de s'établir en Eretz Israël avec le retour.
Donc cette société a ce rôle justement de contribuer à cette variété des valeurs qui permet...
Cette unité des valeurs. Unité. Il ne s'agit pas de pluralisme, il s'agit justement d'unifier. Un exemple tout simple. Nous faisons la guerre. Ouais. Alors, la guerre est considérée comme légitime, mais immorale en Occident, parce que la guerre permet justement de libérer des énergies négatives. Tandis que pour Israël, faire la guerre, ça fait partie de la justice. C'est par un idéal de justice que nos soldats sont mus. Ils ne sont pas des barbares. Or, c'est intéressant de voir la réaction justement de Macron, justement qui considère le fait d'exercer la violence, même quand elle est nécessaire et quand elle est justifiée, comme étant un acte de barbarie. Ce qui ne fait que traduire la manière dont la guerre est conçue en Occident, mais non pas en Israël.
Alors justement, peut-être qu'on s'arrête un peu sur ce point, parce que c'est intéressant. C'est vrai que cette réflexion d'Emmanuel Macron... Alors, côté politique, etc., qu'on peut pas ne pas cacher, mais c'est vrai que lorsqu'on voit les images de ce qui se passe à Gaza, soit les images de ce qui se passe au nord d'Israël, au Liban, on voit que c'est quand même des images très dures.
Ce sont des images de violence. Mais le problème, est-ce que le fait qu'il y ait violence, est-ce que le fait que quelque chose ne se passer en photographie est répréhensible, est-ce que cela veut dire que c'est immoral? C'est parce que si on va dans cette optique-là, il ne faudrait jamais rentrer dans une maternité, parce que vous voyez la douleur de l'enfantement, le sang, les cris, et alors vous allez dire, ah ben, on ne peut pas accoucher. Mmh. Alors que c'est donner la vie qui est l'acte moral par excellence.
Donc en fait, c'est regarder ce que Macron a fait, c'est tout à fait normal de sa part, c'est qu'il a regardé ses actes et ce qui se passe à Gaza avec son regard de la civilisation, on va dire, occidentale,
chrétienne.
Oui, mais en fait,
ça remonte beaucoup plus loin. Ça veut dire qu'en fait, il est fidèle au mythe comme quoi la justification de l'État d'Israël serait d'être des rescapés de l'Holocauste. Et alors qu'il ne reconnaît pas la valeur positive du fait du retour chez soi à la maison.
Alors justement, ça nous permet de parler de l'autre sujet qui est aussi très important et de ce pan de cette discussion qui est-ce que justement... Pourquoi Israël peut prétendre, justement, est-ce que c'est pas un peu prétentieux, peut-être, aussi, de la part d'Israël, de prétendre, justement, à jouer ce rôle d'arbitre?
C'est pas du tout une prétention, c'est une responsabilité. C'est comme si vous disiez un maître est prétentieux de vouloir enseigner, qu'un père ou une mère sont prétentieux de vouloir éduquer. On peut appeler ça du paternalisme, mais on peut appeler ça également une responsabilité morale. Si on se rend compte de ce qu'Israël a contribué à l'histoire de la civilisation et de la morale, alors on ne peut pas abandonner ce rôle uniquement par peur d'être pris pour un prétentieux. Il n'y a que les Juifs qui d'ailleurs refusent le rôle de peuple élu. C'est-à-dire, c'est précisément avec cet excès d'humilité que nous pouvons témoigner du fait que c'est véritablement notre rôle.
Mais est-ce que justement, est-ce qu'on... Aujourd'hui, on peut remplir ce rôle. Est-ce qu'on a les capacités morales de remplir ce rôle
Écoutez, c'est assez extraordinaire de voir que la Providence nous a mis à une distance de quelques stations d'autobus d'une civilisation extrêmement violente et peut-être même barbare. Je parle ici donc du Hamas et de tout ce que ça implique. Et le fait que nous sommes le peuple qui est le porteur des valeurs morales dans le monde, on pourrait dire que c'est presque une expérience au niveau de l'histoire organisée par le Créateur. Nous sommes effectivement dans la lutte entre le bien et le mal. Et je pense que le Premier ministre l'a très bien dit justement lors de sa prestation à la Chambre des députés aux États-Unis, quand il a expliqué que nous sommes en fait dans l'avant-poste de cette lutte au niveau mondial entre le bien et le mal et que nous travaillons également pour les États-Unis. C'est-à-dire ce qui, d'une certaine manière, était une manière de se placer comme étant l'arbitre moral des valeurs de l'humanité.
Alors qu'est-ce que nous... Alors c'est sûr que Benjamin Netanyahou a très bien décrit ça, mais est-ce que nous, quel est notre rôle, on va dire, de personne, du peuple un peu simple,
qu'individu. Vous savez que quand on est porté par une idée, par un idéal, on pourrait dire presque par une idéologie, Alors, on est conscient des occasions qui se présentent. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé maintenant de prendre le microphone des valeurs morales pour l'humanité tout entière. C'est pas le rôle de l'individu. C'est quelque chose qui se crée dans la société. Mais cela veut dire que quand on en est conscient, quand arrive l'occasion de dire quelque chose, de faire quelque chose, alors on la trouve.
Et alors on va poser aussi une question par rapport, pour terminer. On a vu cette semaine l'élection de Donald Trump. Aux États-Unis. Est-ce que justement les États-Unis ont un rôle spécial, vous pensez, à jouer?
Disons que les États-Unis ont une responsabilité en tant que grande puissance, la grande puissance mondiale, et donc ils sont responsables également de l'équilibre du monde. Alors évidemment, on peut ne pas aimer au niveau personnel la personnalité du président des États-Unis, mais ça n'a aucune importance. Ce qui rend apte un dirigeant politique à être dirigeant, c'est la politique qu'il mène et non pas sa vie personnelle ou sa manière de s'exprimer.
On peut dire la même chose aussi sur nos dirigeants en Israël?
Si vous le voulez, c'est-à-dire on pourra toujours reprocher telle ou telle chose à tel dirigeant, mais ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est ce qu'il va faire, la politique qu'il va mener.
Encore, il faut avoir conscience de ça. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'après justement le 7 octobre, que les dirigeants, et même peut-être le peuple tout en entier, tous ceux qui font les milouim, tous ceux qui sont à l'armée, ont plus conscience justement de ce rôle?
Absolument. Il y a quand même, malgré tout, dans certains secteurs de la société, une sorte de psychose collective, des fixations absolument irrationnelles, qui ont besoin d'être analysées peut-être par la psychanalyse, je dirais pas jusqu'à dire par la psychiatrie, mais en tout cas, il y a effectivement des phénomènes assez fascinants, assez surprenants, pourrait-on dire, de prise de position qui opte pour l'irrationnel. Mais comme toute chose irrationnelle, le temps passe et ses idées passent.
Très bien. Sur ça, on va terminer. Merci beaucoup de cette intervention.
Merci
et d'être venu
accepté.
Dans notre studio. Et à très bientôt. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.